Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Bonsoir à tous, bienvenue à vous sur cette libre antenne du samedi. Vous le savez, nous sommes ensemble en direct jusqu'à 1h du matin dans cet espace si particulier d'écoute et d'échange. Toute l'équipe de la libre antenne du week-end est là pour vous ce soir encore. Estelle et Maxime au standard et Benoît à la réalisation. Et moi bien sûr qui vous attends dans ce studio tout bleu. Nous sommes prêts à vous accueillir, alors venez, appelez-nous au 3921. Laissez tomber les peurs et notamment celles du jugement des autres. Ayez confiance en vous. Très souvent, quand on n'a pas assez confiance en soi, eh bien, c'est qu'on donne beaucoup trop d'importance au regard de l'autre, que la voix des autres résonne plus fort que la nôtre. Alors remettez le curseur au bon endroit, osez prendre votre place telle que vous êtes, osez venir nous parler de vous et de votre vie ce soir. 3921 donc si vous souhaitez venir me parler. Pour nous joindre par mail, l'adresse est libreantenne en un seul mot, libreantenne@europe1.fr. Enfin, pour participer par SMS, donnez votre point de vue, apportez votre soutien, répondre à ma question du jour peut-être aussi. Vous faites le 739-21 suivi du mot « nuit » en majuscule, un espace et votre texte signé par votre prénom, s'il vous plaît. À ce propos, ma question du jour, question pour mieux vous connaître, elle est très simple. Dans quelle région êtes-vous ? Je me suis souvent demandé si vous étiez plus nombreux à nous écouter dans telle ou telle région. Eh bien, on aura peut-être la réponse ce soir. Dans quelle région êtes-vous ? Et puis tiens, si vous avez une anecdote inédite ou amusante sur votre région, sur votre village, pourquoi pas un nom de village original, eh bien, vous pouvez aussi nous le raconter. Vous pouvez m'appeler au 3921, me répondre par SMS au 739-21 ou par mail libreantenne@europe1.fr.
23h, 1h, la libre antenne d'Europe 1. Sabine Marin.
Et le premier appel que je prends ce soir avec plaisir, c'est celui de Jacqueline. Bonsoir Jacqueline.
Bonsoir Sabine, merci beaucoup de m'accueillir et bonsoir à tous les auditeurs.
Bienvenue à vous.
Je suis très intimidée.
Oh, il n'y a pas de quoi. Quelle est la raison de votre appel, Jacqueline ?
La raison de mon appel, c'est pour parler du handicap, puisque je suis moi-même non-voyante, c'est-à-dire je n'y vois pas du tout.
De naissance ou non, pas de naissance.
J'ai vu, après j'ai été malvoyante parce que j'ai perdu un œil à cause d'un accident de parcours causé par une maîtresse malveillante.
Quoi ? Qu'est-ce qui vous est arrivé ?
Et elle m'a lancé quelque chose à travers et j'ai fait un décollement rétinien du côté droit. Oui, mais ce sont des choses qui arrivent à l'époque autrefois parce que je ne suis pas toute jeune quand même. Voilà, et c'est comme ça. Après ça, ça a été. Je fais l'école normalement, mes études aussi. Et puis, voilà, j'ai grandi comme ça. Et puis après, j'arrive de la côte basque, landaise. Je suis une personne qui arrive de la terre. Mes grands-parents étaient fermiers. Et j'en suis fière, hein, très fière. Mon papa était non-voyant. Lui aussi accidentel, hein, il a eu un accident de parcours, comme moi. Et voilà, et je suis fière de défendre.
Pardon, mais c'est étonnant quelquefois comme les histoires se répètent, hein, les histoires de famille comme ça.
Oui, c'est comme ça. Et en fait, je me suis mariée comme tout un chacun. Et puis, j'ai eu un accident à la naissance de mes enfants et j'ai perdu la vue. Voilà, une erreur médicale. Je ne m'étendrai pas, mais ça arrive.
Donc deux fois de suite, erreur et maltraitance, quoi.
Ça arrive.
Accident, oui.
Bon,
comment est-ce qu'on accepte tout ça avec autant de philosophie?
Alors, je vais vous dire, on accepte le handicap, mais on l'a toujours, il est toujours là, tous les jours, ça nous le rappelle, on est à l'évidence de ça, hein. Dans la rue, c'est un métier, toute chose est difficile pour nous, comme tous les autres handicaps, hein. Il n'y a pas que le mien.
Bien sûr, mais ce que j'entends dans votre histoire, Jacqueline, c'est que le handicap, évidemment, est difficile, mais surtout la double injustice. C'est pas la faute à pas de chance, là, c'est vraiment la faute de quelqu'un.
Et oui. Mais malheureusement, Mais je suis contente, j'ai deux filles, j'ai une petite fille, j'ai un petit-fils. Voilà, mon handicap pour eux, c'est... Non, il n'y en a pas. Voilà, j'ai quand même... Je suis heureuse en soi avec mon handicap.
Vous avez eu cette force-là.
Mais qui me rappelle tous les jours qu'il est là.
Ben oui, bien sûr.
Bon, ça, c'est normal. Et en fait, j'ai voulu me donner mon handicap, donc je... Voilà, c'est pour ça que j'appelle ce soir, pour dire aussi que c'est une difficulté, aujourd'hui le jour, d'avoir un handicap tel qu'il soit, que ça soit autiste, trisomique, atteint de surdité, trouble du comportement, trouble de la santé. Je le vis tous les jours avec l'association dont je m'occupe et dont j'ai mis en place, puisque j'ai expatrié pour des raisons familiales dans le sud-est. Et je touche à tout ça, aux parents malheureux, aux parents des autistes qui se battent. Je peux vous dire qu'ils se battent, parce que je participe à leur combat.
Oui.
Je les aide, j'essaie de faire au mieux pour les aider. Et c'est pas drôle, et c'est pas facile.
Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement grâce à cette association qui s'appelle comment d'ailleurs ?
Alors, je vais vous dire comment elle s'appelle Mozart. C'est M-O-Z-A-H-R-T. Qui veut dire musique ouverte aux enfants et adultes handicapés ou rencontrant un trouble de la santé.
D'accord. C'est vous qui avez trouvé ça ?
Alors, c'est un docteur et ma fille aînée. On a mis toute une journée ensemble pour trouver. On voulait mettre Mozart, mais on ne savait pas qu'est-ce qu'il fallait mettre pour que le handicap soit là, en fait.
Mmh.
Et on a trouvé de mettre le H à cette place-là. Et on
ça,
a cherché...
Vous avez fait un brainstorming toute la journée.
Oui, ça a été terrible. Mm-hmm. Parce qu'on a tourné dans tous les sens, mais on n'arrivait pas à un résultat convenable. Et en fait, nous y sommes arrivés en fin de journée, en fait.
Donc Mozart pour musique ouverte aux enfants et adultes handicapés ou rencontrant un trouble de la santé.
Oui,
c'est
voilà.
C'est ça, d'accord. Et qu'est-ce que vous arrivez à faire alors concrètement avec
ça ? Alors, je vous raconte quand même un petit peu le parcours, l'histoire.
Oui, bien sûr, allez-y.
Quand je suis arrivée sur la côte, parce que j'y tiens, sur la côte des Alpes-Maritimes, en fait, j'étais pas encore à la retraite. Hein. J'arrivais de tenir une place. Je dirigeais une école de musique là où je me trouvais dans la région du Sud-Ouest. J'ai le toupet, même non-voyante, de faire ça avec une équipe de professeurs, mais une école de musique pour les enfants. On va dire, j'aime pas employer ce terme, mais des enfants qui ont rien, qui ont aucune pathologie normale. Et j'avais fait une classe aussi pour le handicap, mais juste une, on avait monté. J'étais en région rurale. Et je suis arrivée ici, j'ai voulu essayer de reprendre mon métier avec le dossier que j'avais. Et ce que je vais vous dire, c'est pas très joli, mais c'est la réalité.
Mmh.
En fait, j'ai eu affaire à un adjoint. Et il m'a dit, ce monsieur, j'étais devant lui, hein. D'abord, un, vous êtes une femme. Deux, vous êtes handicapée. Trois, vous êtes trop diplômée. Et quatre, vous êtes un petit peu vieille.
C'est ça. Et cinq, vous êtes un sale type. Et encore, je suis polie. J'aurais dit un sale type en commençant par un C, vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, oui. Non ? Vous savez ce que j'ai fait ? J'ai pris mon dossier, je me suis levée. Et je lui ai dit, monsieur, nous n'avons plus rien à nous dire.
Oui, bien d'accord. Jacqueline, voilà. Pardonnez-moi, je dois marquer une courte pause. Ça va être très rapide.
Je vous en prie.
On se retrouve tout de suite, merci.
Je vous en prie.
Jacqueline.
Oui.
Oui, vous étiez en train de me dire que vous avez donc eu affaire à un monsieur particulièrement humain et élégant.
Voilà, tout à fait.
À qui vous avez dit merci, merci mais non merci, quoi. Hein, ça va aller.
Voilà. Bon, donc pour la petite histoire, mes filles étant dans le même métier que le mien, musicienne, quelques temps après, 15 jours après, elles ont fait un concert toutes les deux sur la région et je savais que ce monsieur allait y être. Je me suis mise sur mon 31.
Mmh.
Et à la fin du concert, il est venu me saluer, il m'a demandé si je connaissais ces jeunes dames. Alors je lui ai dit, écoutez monsieur, oui, c'est la vieille, l'handicapée,
la trop moche, trop aveugle, trop vieille.
Oui, voilà,
c'est ça.
Ce sont mes enfants.
Et bim.
Et voilà.
Oh, ça doit être bon ça.
Ah oui, ça m'a fait du bien.
Ah, j'imagine, oui. Je voulais une petite souris pour voir sa tête.
Oui, voilà. Je ne la voyais pas, mais bon...
Vous l'avez bien imaginé.
Oui. Oui, voilà, tout à fait.
Il y a des silences qui en disent long, quelquefois.
Oui, c'est vrai. Vous voyez qu'on lutte toujours, quand même, avec le handicap. Hein. Et après, j'ai passé un concours dans une ville attenante, une femme de ville attenante. J'avais bien réussi, mais hélas, ils n'ont pas voulu que je prenne le poste parce que j'avais un chien guide et que là, le chien guide n'était pas accepté. Voilà. Bon, donc j'ai fait le nécessaire. J'ai dit ce que l'on m'avait dit et tant pis pour eux. C'était pas une bonne renommée pour eux, mais je l'ai fait parce que j'estime que c'est pas parce qu'on a un handicap qu'on doit avoir des raisons qui sont inopportunes pour nous empêcher d'avoir accès aux lieux que l'on peut officier comme tout le monde.
C'est voilà. À la liste des trop, là, vous avez ajouté trop de pattes et trop de poils, quoi.
Oui. C'est tout à fait ça. Mmh. Et elle s'appelait Hawaï, elle était toute noire.
Hawaï?
Oui.
Labrador?
Oui, oui, j'en ai eu plusieurs, oui. Ouais. Malheureusement, elles sont décédées et ça me manque beaucoup. Mais voilà, c'est comme ça. Alors, suite à ça, la colère m'a prise en moi et je me suis dit, je vais faire les papiers, je vais me mettre à la retraite. Et mon projet, je vais le mettre à exécution. D'abord, j'ai été acceptée par une association qui s'appelle l'association Valentin Huy.
Oui, bien sûr. On en parle souvent sur cette antenne.
Oh oui, ils m'ont accueillie. Je suis toujours dans les murs, je vous raconterai après. Parce que ça, je tiens à le dire. Donc là, j'ai mis ce projet à exécution. J'ai dit, on va le faire. J'ai mis du temps. On a commencé petit, avec un jeune homme. Et puis, comme ça marchait bien, on a dit, on va faire une association. Et c'est ce que l'on a fait. En 2010, hein, exactement, on a monté l'association et c'est parti. Donc, je me suis entourée de professionnels du médical, bien sûr, hein, psychologues, psychiatres, ergothérapeutes.
Qui vous ont suivi comme ça tout de suite?
Oui, éducateurs, docteurs, et puis musiciens des autres instances de la région. Et on a monté cette association et en fait, on a donné la possibilité à tous les enfants malvoyants, non-voyants, troubles du comportement, trisomiques, autistes, qu'est-ce qu'on a, des troubles de la santé, comme avec des pathologies comme le cancer, comme d'autres pathologies difficiles. Hein. Mmh. Vous les avez dans les bras un jour et que le lendemain, ils n'y sont plus. Vous voyez, on fait ce genre de choses-là. On a touché aussi aux troubles bipolaires et aussi aux schizophrènes. Mais j'en ai pas eu beaucoup parce que là, la schizophrène, c'était un petit peu difficile. Et donc, comme on me donnait que des adultes, j'ai arrêté. Parce qu'étant non-voyante, c'est quand même...
C'est difficile assez, de gérer ça tout seul.
Difficile. Bien sûr. Mais enfin, tous ces jeunes, ces enfants, on les fait chanter, faire des instruments, jouer des instruments. On les fait monter sur scène. Et je peux vous dire qu'ils tournent. Et notre joie, c'est de les voir courir quand on donne un spectacle, courir sur scène avec les instruments. On ne voit plus le handicap. C'est fabuleux. Mmh. Je vous jure qu'il y a 2 ans, en 2018, j'étais au piano avec une vingtaine d'enfants autour de moi de toute pathologie. Et on a joué, mais j'étais obligée d'improviser parce que ça n'arrêtait pas. C'était génial. Et ça, parce que nous sommes tous bénévoles, c'est notre récompense, c'est notre, on va dire, notre rémunération. Et c'est du bonheur.
Bien sûr. J'ai eu la chance d'assister à plusieurs spectacles assez différents avec beaucoup de gens qui avaient des handicaps divers et variés. Et effectivement, mais au bout de quelques minutes, on n'y pense plus une demi-seconde. On rit avec eux, on pleure avec eux, on est dans les chants, dans l'histoire. Et c'est quelque chose de tellement fort, tellement puissant.
Ah, c'est fort, ouais, c'est fort.
Ouais. Et de les voir tellement heureux aussi sur scène.
Oui, puis là, vous voyez, une fois sur scène, quand nous, musiciens, nous y sommes, on oublie tout, mais c'est génial. On ne pense plus à rien, on joue, c'est... Une fois, on a fini par... C'est très amusant, c'était la mère Michel qui a perdu son chat, et on avait fait des rimes actuelles. Alors c'était moi qui avait pris le micro.
Alors pardon, ben... Jacqueline, on va garder le suspense, vous allez me détester, mais il faut que je refasse une pause encore. Je
suis désolée.
Gardez ça au même petit drapeau, gardez là exactement où vous en êtes, et je vous récupère dans une poignée de secondes et je vous reprends, merci.
D'accord.
Jacqueline, alors, on en était au chat.
Oui.
À la mère Michel qui a perdu son chat.
Son chat. Donc, j'ai donné les rides mon public. Mmh. Et donc, ils ont tapé dans les mains avec moi. Ils se sont exercés un petit moment. Au piano, il y avait une autiste non-voyante. Elle a les deux pathologies. Oui. Mais elle est merveilleuse. C'est vraiment, je dirais, un génie. Enfin, on va dire ça comme ça. Ça fait 11 ans que je l'ai dans les mains. Et j'ai dit aux professeurs de prendre leur instrument. Moi, j'ai pris des percussions avec tous les enfants autour de moi. Et on s'est lancé, on a chanté. Tout le monde était debout, ça a été euphorique. Et là, vous vous dites, eh ben voilà, ça c'est réussi. Parce que les enfants, ils n'étaient plus handicapés là.
Mais là, on se dit que la vie est belle.
Ah oui, c'était génial. Tout le monde a oublié, tout le monde ne pensait à rien. Et c'était que du bonheur.
Mais oui. Mais redites-moi concrètement, qu'est-ce qu'elle apporte alors votre assoce? Qu'est-ce que vous proposez comme aide?
Ben, l'aide, c'est de leur faire faire de la musique par alors du traditionnel et du non traditionnel. C'est-à-dire que on enseigne au cas par cas. C'est thérapeutique parce que y a des enfants qui apprennent avec comme tout un chacun avec les notes, la théorie, etc. Les autres, oui, mais c'est une approche sensorielle.
C'est ça, donc c'est un gros travail d'adaptation à chaque cas.
Oui, tout à fait. Oui. Par exemple, les trisomiques, c'est beaucoup par imitation. Mais on y arrive bien. Hein. Ils sont très forts en rythme, les trisomiques. Les autistes, c'est encore une autre pathologie. Vous voyez, chacun a sa manière d'être, a sa façon de travailler, et c'est à nous à s'adapter.
C'est vous qui marchez dans leur pas et pas l'inverse.
Oui, voilà, il faut être. Oui. Il faut aimer. Faut aimer l'autre, on va dire. Il faut donner tout son amour à ses enfants. Et ils vous le donnent au centuple, eux. Par contre, vous voyez, nous sommes en arrêt à cause du Covid, parce qu'ils ne peuvent pas respecter les barrières sanitaires.
Et c'est vrai que c'est compliqué.
Ni la distanciation, parce qu'ils vous attrapent au cou, ils vous serrent, ils vous. Voilà, il y en a. Ils vous sautent dessus parce qu'ils sont contents. C'est de l'amour, tout simplement.
Jacqueline, il y a plusieurs SMS qui sont arrivés pour vous. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler, vous qui nous envoyez des SMS, s'il vous plaît, signez par votre prénom, c'est plus facile pour moi quand je vous cite. Donc là, on a Annie qui réagit, vous savez, à ce charmant bonhomme qui vous a rembarré au départ et qui dit « Annie, on se demande qui est l'handicapé dans l'histoire, bravo pour votre investissement ».
Merci, c'est gentil.
Et on a Mamie Tam Tam qui nous dit qu'elle nous écrit de la Ville Rose de Toulouse et qui nous dit bravo pour le dynamisme de cette dame et son implication auprès des enfants en situation de handicap.
J'adore Toulouse. Je connais très bien Toulouse.
Bon.
Merci beaucoup.
On a aussi des appels de gens qui sont à Versailles, à Bordeaux. Coucou Brigitte. Quelqu'un qui n'a pas signé, qui était en Charente-Maritime. Vous savez, j'ai posé la question au début de l'émission pour voir un petit peu où vous êtes tous finalement, parce que on se rejoint tous sur une antenne, mais concrètement, vous êtes un peu partout et certaines fois, même très loin, même à l'étranger. Et donc voilà, pour l'instant, on a Charente-Maritime, Bordeaux et...
À Bordeaux, c'est
Toulouse,
c'est
Lourdes aussi.
À Lourdes, ah oui, je connais.
Lourdes aussi, j'ai quelqu'un qui nous dit « Je suis dans un petit village à côté de Lourdes, là où il y a des miracles. »
Ah, oh, c'est bien.
Il y a Gilly Girl qui nous dit « Je suis à Nantes, du côté de Nantes. » Et quelqu'un qui est à Bourg-en-Bresse aussi. Voilà.
Oh là,
la carte de France se dessine tout doucement au fil de vos SMS.
Tout à fait.
C'est comme si c'était des traits qui nous relient tous ce soir.
C'est génial. En tout cas, félicitations pour toutes vos émissions. À Olivier Delacroix, j'adore aussi. Et toute votre équipe, vous êtes sensationnelle. Je vous écoute depuis des années. Très longtemps.
Depuis combien de temps alors? J'avais posé la question d'ailleurs un soir, depuis combien de temps écoutez-vous la Libre Antenne?
Je ne sais pas, beaucoup, beaucoup.
Tant que ça?
Oui.
Ben, merci à vous, c'est aussi vous qui faites cette émission, vous savez.
Et j'entends beaucoup de cas, beaucoup. Je suis aussi sur Facebook et l'autre jour j'ai vu sur Olivier Delacroix une vidéo d'une dame, d'une mamie qui appelait au secours pour son petit-fils autiste. J'espère qu'on l'aidera et elle a raison, tout ce qu'elle dit c'est la vérité, c'est vrai. Ils se battent ces gens-là, c'est très difficile. Au travers des maisons des handicapés, au travers de tout, on a beaucoup de difficultés, tous. Malgré, on pense avancer, la société avancer, mais moi parfois je me demande si on ne régresse pas.
Il n'y a pas très longtemps, j'ai eu la maman aussi d'un garçon autiste et qui avait été obligée, comme beaucoup, d'aller le mettre en Belgique.
Eh bien oui, c'est déplorable.
Mais voilà, j'allais vous poser la question, qu'est-ce que vous pensez de ça?
C'est déplorable, parce que je pense que la France, elle devrait avancer un petit peu plus. par rapport à l'autisme, par rapport à toutes ces pathologies, parce qu'il n'y a pas que l'autisme, il y a les troubles du comportement, il y a les trisomies, il y a plein de handicaps, même le nôtre. Vous savez, des fois on s'adresse, même moi personnellement, je suis adulte, les adultes, ils le subissent. Par exemple, on veut, au lieu de parler à nous, eh bien on parle à l'autre personne. Dernièrement, ça me concerne personnellement, mais je vais le dire, ça va peut-être vous toucher, vous faire un petit peu crier. Je suis dans une résidence. Ils voulaient me demander de changer quelque chose sur ma terrasse. Ils se sont adressés à mes enfants au lieu de s'adresser à moi.
Quel mépris, quand même, c'est vraiment terrible.
Pas d'hier. Ben, c'est-à-dire que l'on associe, je n'aime pas ce mot, mais c'est un peu la débilité à la non-voyance. C'est-à-dire qu'on ne nous prend pas pour ce que nous sommes. On croit que parce que nous sommes non-voyants, que la tête ne marche pas.
Non, mais surtout, Jacqueline, quel que soit le problème, on a un handicap, on n'est pas un handicap.
Ben voilà, c'est ça. Ils n'ont rien compris. Je pense que ou alors ils ont peur. Ça fait peur aussi, vous savez.
C'est vrai. C'est pour ça que je dis souvent que ce qui est très important, c'est de dédramatiser, d'en parler.
Ça fait peur.
D'en rire quand on peut, parce qu'un peu d'humour, ça fait passer beaucoup de choses.
Oui. Ne croyez pas que je n'ai pas eu peur quand je suis tombée non-voyante. Hein. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec mon bébé? Ah oui, hein. Mais bon, il faut y aller, hein.
Alors justement, c'est une part de votre personnalité que je trouve vraiment intéressante. Comment à chaque fois vous avez trouvé cette force-là? Elle était où la lumière pour vous?
Je ne sais pas. Je l'ai en moi, peut-être.
Oui.
C'est parce que j'ai vu la petite lumière que j'ai l'autre lumière dans moi. Vous me comprenez?
Oui, bien sûr.
Je sais que vous y croyez.
Bien sûr.
Et c'est le cas.
Vous êtes bien protégée?
Oui.
Mais malgré tout, on peut être très connecté, bien protégé. Et
j'ai une profonde foi aussi en moi,
ouais.
mais ne croyez pas que parfois je ne m'effondre pas.
Voilà, c'est ce que bien sûr, et c'est humain.
N'oubliez pas que je suis présidente d'une association handicapée, n'est-ce pas? Moi, j'ai mon handicap, j'en prends parfois plein la tête. Mais quand je vous dis plein la tête, c'est pour pas un rond, hein. Des choses graves.
Dans quel sens, par exemple?
Oh ben je veux pas trop m'étaler à l'antenne, mais des choses qui sont pas réelles, on me les balance à travers et ça fait mal, et alors que je suis pas du tout ce que les gens pensent, en fait. Voilà.
C'est un peu vague là pour le coup, Jacqueline.
Oui, mais je peux pas trop.
D'accord, je comprends.
Voilà, au vu de pour être pas respect pour
les familles, les parents. Politiquement correct, oui.
Oui, voilà, il faut être diplomate aussi. Malheureusement, je ne sais pas toujours l'être parce que je suis très directe, mais j'ai appris à l'être parce qu'il faut savoir le faire aussi.
Pour protéger les familles aussi.
Hein. Oui, et je peux vous dire aussi que je suis quand même garantie parce qu'autour de moi, j'ai des psychologues, des psychiatres et que je parle toutes les semaines parce que j'en ai besoin, parce que j'ai les enfants. Ne croyez pas qu'ils ne me parlent pas parce qu'ils sont quand même malheureux quelque part. Certains, et les parents. Et ça, après, il faut le... Vous qui êtes psychologue, vous savez, il faut dégager, hein. Il faut se faire aider. Il n'y a aucune honte.
Bien sûr.
Et ça, je le fais. Et... Oui, parce que pour la petite histoire, quand même, tous ces enfants-là, nous n'avons pas de locaux. Depuis 7 ans que je demande ici, nous n'en avons pas. On nous a promis cette année, là au mois de juillet, on m'a téléphoné qu'au mois de septembre, on allait m'appeler et nous offrir des locaux. J'espère que s'il y en a qui sont en antenne, alors, les élus là, qui m'entendent et que ça soit du sûr. Hein.
Alors on en arrive à ce que je voulais vous demander, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, Jacqueline? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire?
On arrive là, vous savez que nous allons dans une école qui s'appelle l'école du Château des déficients visuels et tout de la santé, de l'éducation nationale. On officie tous les jours, oui, presque tous les jours. Après, on va dans les CESAD. Vous savez, les CESAD, c'est là où sont regroupés les enfants avec des troubles divers et variés. Mmh. Et là où il y a des thérapeutes, etc. On est reçus par la... Merci à eux et merci beaucoup par l'association Valentin Huy. Ils nous prêtent leurs locaux parce qu'on n'a rien d'autre. Mais ils ne sont pas accessibles aux fauteuils. On a une dizaine de fauteuils qui attendent. Hein. On a beaucoup, beaucoup d'inscriptions, mais on ne peut pas, pour le moment, parce qu'on n'a pas les locaux adaptés. Hein. On attend. Et c'est ça que je demande au jour d'aujourd'hui. Vraiment, vraiment, c'est nécessaire pour pas laisser tous ces enfants dehors, puisqu'ils peuvent pas avoir accès aux établissements, on va dire, normaux, hein, les conservatoires, les écoles de musique, tout ça.
Oui.
Donc nous, si on les reçoit, après on les déverse au conservatoire, hein. On a réussi à ouvrir les portes, on en a quelques-uns. Mais c'est
comment,
ça,
comment vous avez réussi ça? Ça doit être un sacré combat aussi, hein, j'imagine.
Oui, je ne vous dis pas tous les combats. Oui, et je vous avoue que parfois je suis fatiguée parce que j'en ai assez parfois de battre des portes, de pousser des portes, de faire écouter les grands de ce monde.
Et en même temps, quelle satisfaction d'avoir fait ça de votre vie.
Hein. Je ne sais pas, oui.
Ben, quand même.
J'aime aider l'autre et...
Un jour, vous vous retournerez avant de partir et vous vous direz waouh, c'est moi qui l'ai fait, comme dirait l'autre.
Je ne sais pas. Tant que je peux le faire, je le fais. Et... Alors, par contre, je ne suis pas toute seule. Attention, une association, ça, on n'est pas tout seul. Hein. Il y a un bureau, il y a un conseil d'administration, il y a des bénévoles, il y a des parents, il y a tout. Donc, je suis entourée et je les remercie à tous. Parce que s'il y en a qui sont à l'antenne, qui m'entendent bien. On ne gère pas ça tout seul. Mais bon, il y a une grande partie quand même qui est faite par Jacqueline. Voilà, pour les concerts, pour aller chercher, voilà, faire beaucoup de choses.
Est-ce qu'elle est visible, cette association? Est-ce que vous avez une page Facebook,
alors,
un site? Dites-nous un petit peu, c'est le moment de faire connaître.
Je vous dis tout. Alors, c'est www.mozart.fr. mozart.fr.
Donc tout simplement, Mozart avec un H, donc
oui.
mozart.fr. D'accord.
Et le Facebook, c'est la page Association Mozart, et c'est sur ma page, sur Jacqueline et puis mon nom. Je voulais vous dire aussi que je rends grand hommage à Hope, hein, parce que on a fait le prix Fémina en 2018. J'ai combattu avec 11 associations et vous avez participé. Je vous remercie et j'ai eu une excellente approche avec Frédéric Michel, que je salue au passage et que la porte est ouverte. S'il veut revenir nous voir, il nous connaît. Hein. C'est avec grand plaisir. J'ai passé une après-midi fantastique avec Frédéric Michel et les élèves de Mozart d'ailleurs. On a chanté, on a joué et je crois que lui aussi il a apprécié.
D'accord, écoutez, le message est passé, on lui dira.
Voilà, vous lui direz. Alors aussi, c'est pas que le combat de l'association, je soutiens toutes les personnes qui ont téléphoné, les non-voyants que j'entends à l'antenne, qui disent qu'ils se battent avec la maison des handicapés, la MDPH. Qu'il y a des choses qui sont difficiles pour nous, oui. La rue est difficile. Parfois, on trouve des trottinettes électriques sur le trottoir, des scouts, des terrasses aménagées. Mmh. Donc, tout ça, c'est pour notre pomme et c'est pas facile et on nous oublie. Et on fait des trottoirs, par exemple, là, ici, sur Nice, hein, il y a des trottoirs qui sont faits très haut. On n'a pas pensé en envoyant. Nous, on peut plonger, là. Si on descend sur un côté où c'est haut, adieu. Et on se casse quelque chose. On nous oublie complètement. Et les fauteuils et tout ça. On pense pas assez à nous. Il n'y a pas assez de choses de faites. Ici, il y a un non-voyant qui fait partie de l'accessibilité. Il se bat, le pauvre, aussi pour nous et avec un de mes professeurs qui est aussi. Mais on n'y arrive pas, quoi. C'est dur. C'est un combat permanent. Moi, quand j'entends tous ces non-voyants, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses de faites, attention, hein. Je ne vais pas incriminer non plus, on a du matériel informatique, on a des outils adaptés, on a quand même pas mal de choses. Hein. Ça, je ne dis pas le contraire. Mais
matériellement, oui, mais effectivement, sur le plan humain, il y a encore du boulot. Hein.
Ah oui.
Et c'est pour ça qu'il faut en parler.
Rien que pour le Covid, le confinement. Bon, le confinement... Heureusement, bon, la mairie nous a aidés ici. Mais vous savez, on est beaucoup à se plaindre que nous étions dans des résidences, mais personne nous a demandé si on avait besoin de quelque chose. Moi, la belle première, il n'y a qu'une dame qui m'a aidé pour les poubelles, mais personne n'est venu voir si j'avais besoin d'aide ici. Et pourtant, j'ai une maman de 96 ans avec moi, voyait à un certain âge. Personne, c'est ça que l'on regrette. Et après, quand il y a eu le déconfinement, tout le monde s'est jeté dehors, hein, dans la basse-cour, comme on dit. Mais nous, on nous a oubliés. Et chaque fois qu'on était trop près, eh ben, c'était après nous. J'ai mis d'ailleurs des publications sur Facebook. Les chiens, ils étaient grondés. Une dame, un de mes professeurs, rentrée dans une pharmacie, elle s'est fait crier dessus parce qu'elle était trop près de la personne. Mais bon sang, mais sortez-vous, vous. Nous, on ne voit pas. C'est ça. Vous voyez, c'est toutes ces petites choses qui sont difficiles pour ceux qui rentrent dans la non-voyance. Parce qu'il y a beaucoup de DMLA, beaucoup du VIT et tout ça, et ils perdent la vue petit à petit. Et c'est dur pour eux. C'est dur. Bon, moi, je le vis bien. Pourquoi ? Parce qu'il y a longtemps que je suis non-voyante. Mais c'est dur.
Il y a Jean-Phi qui nous écrit, qui vous dit « Madame, vous ne combattez pas, vous êtes un combat ». C'est joli.
Oh, c'est gentil, merci. Merci, merci beaucoup. Mais c'est vrai que c'est un combat et on est comme tout le monde. Hein. On a le droit à la vie, on peut rencontrer, on peut aimer quelqu'un, on est comme tout le monde, tous les handicapés. On a le droit à la vie, comme vous tous, comme tout le monde. On est tous pareils pour moi.
Et oui. Et le maître mot de tout ça, vous l'avez dit au tout début, c'est aimer.
Savoir aimer, tout simplement.
Aimer l'autre,
ah oui,
quel
aimer
qu'il
l'autre.
Soit, quelles que soient nos peurs, quelles que soient nos appréhensions, quelle que soit la vie,
oui.
Aimer l'autre,
oui.
Simplement
aimer l'autre. C'est très important. Oui. D'ailleurs, tous nos professeurs, parce que nous sommes une famille, j'ai des professeurs qui sont malvoyants, non-voyants, et des grands musiciens, hein, de hautes instances de la région. Et on s'entend très bien, nous sommes une famille, on s'aime tous. Et on tient à ce que les parents et les enfants se sentent dans une famille. Si vous voulez, c'est pas, on n'est pas une structure où, comment je peux vous dire, allez, je vais faire ça sur eux, avec un peu d'humour, marche droit, et puis voilà, hein. Un, deux, c'est tout. Non, pas chez nous, ça n'existe pas. Mmh. Nous, c'est aimer l'amitié. Bon, je ne vous dis pas que nous n'avons que des gens qui... Le caractère lié de chacun, tout, même les handicapés, même les personnes normales, elles ont toutes leur tempérament. Hein. Il y a des gentils, il y a des pas gentils, il y a de tout. Hein. Il faut de tout pour faire un monde. Ça existera toujours. Hein. Mais c'est à vous à ouvrir, vous-même vous ouvrir et amener les gens à être sympas et à les accepter tels qu'ils sont.
Ça me rappelle, Jacqueline, une petite anecdote qui à la fois m'avait fait beaucoup sourire mais que j'avais trouvé géniale dans la manière de gérer. J'étais avec une amie qui avait une petite fille de 3 ans en train de faire la queue à la boulangerie et il y a une dame derrière qui avait une canne blanche. Et la petite fille se retourne et dit très très fort « Maman, qu'est-ce qu'elle pêche la dame ?» Et alors, ce qui est amusant, c'est que là, il y aurait eu deux... D'abord, tout le monde rit, tout le monde sourit. En même temps, il y a une gêne qui passe. Et au lieu de laisser cette gêne s'installer, la maman, la petite fille, a simplement dit « Ben viens, on va lui demander. » Et on va lui demander pourquoi est-ce que c'est que cette canne-là. Et tu verras que ce n'est pas une canne à pêche. Et le simple fait d'en avoir ri et d'avoir amorcé un dialogue avec cette dame non-voyante, j'ai trouvé que c'était vraiment génial.
Ah,
c'est ça l'ouverture.
Oui, ça m'est arrivé une fois, ça aussi. J'étais avec... ma cadette, ma seconde fille, et j'avais ma canne fermée, puis monsieur, il a pris ça pour une baguette de majorette.
Oui, bien sûr.
Non, ça nous a fait rire, et puis on a mis un petit peu de temps à expliquer.
Oui, transformer la gêne en rire et le rire en dialogue, c'est
oui,
ça.
Je vais vous faire sourire à tous. J'avais un chien guide qui s'appelait Aquila, malheureusement, elle est décédée d'un cancer au poumon. Elle nous protège. Je l'ai beaucoup aimée. C'était un chien fabuleux qui a travaillé avec les autistes et avec les Alzheimer aussi. Parce qu'on a fait de tout. Et un jour, j'étais avec une amie qui était loin de moi. Je marchais, j'étais au marché, en fait, avec mon sac à dos et mon chien. Et un monsieur, je ne sais pas où il regardait ou peu importe, il m'est rentré dedans, mais grave, quoi. Il m'a dit, ben, tu vois pas. Alors, j'ai dit, ben non, je vois pas. Qu'est-ce qu'il a ton chien, il est malade. Mais non, j'ai ri, mais j'ai ri. Et là, j'ai mis 10 minutes pour lui faire comprendre que je n'avais pas mes yeux, je ne voyais pas, et que le chien, c'était un chien guide.
Ouais. Mais est-ce qu'au moins, il y a un dialogue qui s'est amorcé entre vous ?
Oui, et il y a eu un attroupement, mais tout le monde riait.
Bon, ça c'est chouette. Quand c'est comme ça, c'est vraiment bien. Quelle que soit la manière dont ça démarre, c'est chouette quand on arrive à échanger après.
Ah oui, mais c'était super. Et lui, après, il était tout penaud, tout vexé, parce que il s'est rendu compte après coup. Mais j'ai fait quoi ? Moi, j'ai dit quoi ?
On a le droit d'être maladroit. Vous savez, moi, la première, quand je croise quelqu'un, notamment en chaise roulante, qui est à un feu rouge, je ne sais jamais si la personne a envie qu'on l'aide ou pas.
Ah, ça oui.
Et un jour,
ça.
Je me suis dit, il suffit de lui demander, c'est pas plus compliqué que ça. Finalement.
Oui, pour nous, c'est nous demander, parce qu'il y en a qui ne veulent pas. Et moi, malheureusement, je me suis fait agresser au mois de décembre, donc j'ai peur en traversant maintenant. Et si on me pose la main sur l'épaule, je sursaute, ça ne m'est pas encore passé. Faut que j'y travaille là-dessus, cher psychologue.
j'ai rien dit, hein, pourtant.
Oui, je vais y travailler.
L'ai-je pensé suffisamment fort ?
Voilà. Et donc, il faut demander, mais faut pas toucher. Il faut demander simplement. Voulez-vous traverser ? On vous dit oui ou non. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas, ou alors qui sont désagréables quelquefois parce qu'ils sont en perdition de vue. C'est juste, vous savez, le point de départ et ils sont meurtris en eux.
Oui, c'est pour ça qu'il faut juste parler, ne pas avoir peur d'oser poser une question, même si elle paraît ridicule au départ.
Mais
juste,
oui. Voilà. Comme on fait aux enfants, tout simplement.
Exactement, exactement.
C'est pareil. Hein. Mm. Aux petits-enfants handicapés, on apprend à les connaître, on apprend à leur parler. Et vous savez que les petits autistes, rien que nous, on est à égal. Enfin, on est, si vous voulez, les professeurs non-voyants et moi-même, égaux. C'est-à-dire on a un handicap comme eux. Eh bien, vous savez que ça marche bien. Parce qu'on arrive à les faire parler, on arrive à les ouvrir, on arrive à... Parce qu'ils nous considèrent comme eux, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, moi je me souviens d'un échange formidable à la Maison Personnage, où j'avais débarqué un peu par hasard parce que j'habitais à côté, à l'époque à Sèvres. Vous connaissez les Maisons Personnage ?
Oui, oui.
De Lino Ventura. Et j'étais rentrée, je leur avais proposé bêtement d'amener des livres. Et la directrice avait souri en me disant « c'est très gentil, mais ils ne savent pas lire ». Et là, j'ai été mortifiée. Je me dis, mon Dieu, je suis désolée, j'ai mis les pieds dans le plat. Et puis j'ai réfléchi, je dis, mais si vous voulez, moi, je peux leur lire des histoires. Pourquoi pas ? J'ai du temps, si vous voulez que je vienne de temps en temps leur lire des histoires. Donc elle m'a présenté à eux, et quand je suis arrivée face à eux, je leur ai dit, vous savez, j'y connais rien du tout à votre handicap. Et là, ils ont éclaté de rire. Certains m'ont dit, oh, c'est pas grave, on va t'apprendre. Et j'ai trouvé ça tellement sincère et tellement touchant.
Ah oui,
et ils m'ont appris, effectivement, ils m'ont appris ce que c'était. Ils avaient chacun beaucoup été autistes. Beaucoup étaient, trisomiques. Certains étaient autistes et ils m'ont appris, comme ils ont dit, en rigolant à leur manière, ils m'ont appris ce que c'était que le handicap.
Ils sont adorables, les trisomiques sont très aimants.
Tellement attachants, en plus.
Très, oui, beaucoup. C'est pour ça qu'on est obligé de... Là, l'ARS nous a dit de recommencer qu'en début octobre, on ne peut pas, à cause de tout ça. Alors, ce que l'on fait, vous n'allez pas me croire, mais c'est vrai, c'est réel. Eh bien, je me suis mise à faire les cours par WhatsApp. Et par liaison téléphonique avec les élèves.
Oui, c'est la voix qui compte.
Et ça marche sans
faire. C'est la voix qui compte, là, oui.
Oui, et ça marche bien. Et je crois qu'ils travaillent encore mieux que quand ils sont à côté de moi, finalement.
Ils sont plus concentrés.
Je suis au piano, moi, parce que j'ai un piano chez moi. Mmh. Au bout du fil, je joue avec eux et ça leur plaît et ça avance bien. Bien sûr, on ne peut pas faire ça avec les nouveaux, mais avec les anciens, oui.
Oui.
Vous voyez, on n'apporte que du bonheur, quand même.
Mais rien que de vous avoir ce soir, Jacqueline, c'est du bonheur pour nous.
Ah, c'est gentil. Je voulais vous glisser quelque chose aussi. On a un ami qui s'occupe beaucoup, beaucoup de l'association. Il s'appelle Charles, il est écrivain. Et il cherche à éditer en Belgique ou ailleurs. S'il y en a qui m'entendent, je laisse mon numéro de téléphone. Vous pouvez lui donner mon numéro, mais mobile en fait. Parce que c'est le numéro de l'assoc.
Alors, pas à l'antenne, si vous les laissez à l'antenne ?
Non. Je vais les laisser à vos collègues, vos coéquipiers.
Donc, ça n'est pas le numéro sur lequel on vous a rappelé, là ?
Non, ça, c'est mon direct. Non, pas celui-là.
D'accord. Donc, on ne raccrochera pas et je vous passerai Estelle ou Maxime qui s'occupera
de... Oui, parce que L'autre, c'est celui de l'association. Donc, pour lui, si on pouvait faire quelque chose, ça sera avec grand plaisir parce qu'il aide beaucoup, beaucoup l'association et on tient en retour à l'aider à lui parce que ça vaut la peine.
Il est belge ?
Non. Non, non.
Alors pourquoi vous dites qu'il se fait éditer en Belgique ?
Il aimerait éditer en Belgique et ailleurs, en France, etc.
Pardon, j'ai pas entendu la dernière phrase.
Il aimerait éditer en Belgique et ailleurs.
Mais pourquoi, voilà. Pourquoi en Belgique
Parce qu'il a des amis belges, je pense, et puis il a fait une histoire. Je veux pas le dévoiler.
Ah. Dommage, vous attisez ma curiosité.
Bon, je tiens à être discrète.
Mais c'est juste, globalement, c'est un roman ou c'est quelque chose de l'ordre du récit ou de témoignage?
Non, c'est vraiment une histoire d'un chien, on va dire, voilà.
Histoire d'un chien? Ah bah ça me plaît encore plus. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour jusqu'à maintenant pour essayer de se faire éditer?
Il est connu ici sur la région.
Non mais je veux dire, est-ce qu'il a envoyé son manuscrit à plein d'éditeurs par exemple?
Eh ben ça, écoutez, je peux pas parler de tout ça à l'antenne.
Sans rentrer dans les détails, simplement savoir que la première chose à faire, c'est simplement d'envoyer son manuscrit déjà.
Oui.
Et de garder courage, si vous savez le nombre de grands auteurs qui ont été rejetés aussi.
Oui, ben ça je vais lui dire par contre. C'est... Et il peut envoyer à Europe 1 aussi.
Dans quel
c'est
but
ce que je lui ai suggéré, moi.
Mais à qui à Europe 1 et pourquoi faire? C'est ça?
Ah, je sais pas.
Je vois pas tellement le...
Non, je sais pas, je vous pose la question, moi.
Ce n'est pas la bonne filière pour lui. Ce qu'il lui faut, c'est vraiment une maison d'édition, que ce qu'elle soit française ou belge, s'il est attaché à la Belgique.
Mais s'il y en a qui m'entendent et qui m'appellent à moi.
Bon, je pense que vous allez faire un bon agent. Hein.
Voilà, je sais pas, je pense que oui. Je voulais vous dire aussi, il y a des dames qui vous ont demandé, ou un monsieur, des maisons pour les personnes non-voyantes et malvoyantes. Vous savez, un jour, je sais plus qui c'est cette personne. Il y en a beaucoup aussi. Il y a l'association Valentin, oui, elle est partout.
Oui.
En principe, dans tous les départements. Il y a Voir Ensemble aussi. C'est un peu dans tous les départements. C'est pour les personnes mal et non-voyantes. Il y en a pas mal.
Je vais noter, vous faites bien, parce que souvent on en parle.
Pour ça j'ai entendu qu'on vous demandait.
Valentin, oui, ça je sais, on l'a
oui,
souvent d'ailleurs.
Oui, il y a Voir Ensemble et il y a...
Voir Ensemble, oui.
Oui, Voir Ensemble. Et autrefois ça s'appelait la Canne Blanche, mais ça s'appelle France. C'est sur Paris aussi, la filiale. Je ne me rappelle plus, je ne l'ai pas mis en note, tiens là, je suis bête. Mais il y en a beaucoup. Si vous tapez sur le net les recherches pour les maisons de mal et non-voyants, il va en sortir plein. Mmh. En principe, il y en a partout. La première, la plus importante, c'est Valentin Huy, bien entendu.
C'est vrai.
Qui est sur Paris et qui est partout.
Qui a des antennes un peu partout en France.
Oui. Partout, oui, oui. Donc là, rien qu'ici, ils font du sport, ils font tout ce qui est artistique, ils font des sorties, ils font des randonnées, ils font du cyclisme, ils font de tout.
Heureusement qu'ils sont là aussi.
Oui, ils font de l'informatique, ils nous apprennent avec les iPhones, les téléphones, ils font de la vente de produits pour nous, qui est horriblement cher, entre parenthèses.
Ça
devrait baisser en France, je trouve ça lamentable. Au passage.
Jacqueline, il y a les informations qui vont arriver, on va devoir se quitter.
Oui.
Je vois Sophie Tussaud qui s'installe à côté de moi en studio, donc on va se dire au revoir. En tout cas, un grand merci pour cette belle énergie.
En tout cas, si Olivier Delacroix, s'il veut m'entendre, s'il veut traiter d'un autre sujet sur l'autisme ou autre, je suis là, je peux repasser pour ça.
D'accord, on transmettra.
J'en connais un rayon.
Je vous embrasse très très fort, Jacqueline.
Moi aussi, je vous embrasse. Et merci à tous les auditeurs et merci à vous tous.
Au revoir.
Au revoir.
Vous écoutez Europe 1, il est minuit, c'est l'heure des infos avec Sophie Tussaud.
Alain Coq, il a beaucoup de ressources, il va bien trouver une solution pour que la volonté qu'il a, qu'on voit ce que c'est que de mourir dans ces conditions, puisse être partagée par les Français.
La mort d'Alain Coq ne sera pas retransmise en direct comme il le souhaitait. Facebook a stoppé la diffusion. La disparition de l'ancien maire du Havre, Antoine Ruffnac. Et puis la France bat ce soir la Suède grâce à Mbappé.
Europe 1.
Bonsoir à tous. Alain Coq a entamé sa lente agonie. Atteint d'une maladie incurable et interdit de suicide assisté, il a choisi de mourir et a cessé son traitement ainsi que toute alimentation et hydratation depuis la nuit dernière. Alain Coq affirme que ce n'est pas un suicide. Il voulait avec sa mort faire avancer le débat sur la fin de vie. Il avait décidé de mourir en direct, mais Facebook a bloqué la diffusion. Une décision que ne comprend pas Jean-Luc Romero, le président de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité.
Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi Facebook le supprime. Vous savez, Facebook ne peut avoir aucun problème quant à la loi, puisque vous savez, la loi de 2002, la loi Kouchner, vous permet d'arrêter vos traitements et de refuser les traitements. Donc il ne fait que ça. Il ne va pas se suicider en direct, il va se laisser mourir. Évidemment, je comprends que ça puisse choquer un certain nombre de personnes, mais quand vous avez des politiques qui ne veulent rien entendre, quand il y a ces souffrances, à un moment, quand il y a quelqu'un qui est une espèce de, je veux dire, de porte-parole, de héros, parce que je vous dis que les souffrances qu'il a, c'est quand même incroyable d'oser faire ce qu'il fait aujourd'hui, eh bien, on aurait peut-être pu le laisser aller jusqu'au bout, mais vous savez, Alain Coq, il a beaucoup de ressources, et croyez-moi que si Facebook aujourd'hui a cette attitude, il va bien trouver une solution dans les heures qui viennent pour que la volonté qu'il a, qu'on voit ce que c'est que de mourir dans ces conditions, puisse être partagé par les Français.
Jean-Luc Romero, le président de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, avec Wendy Bouchard sur Europe 1. Olivier Véran, met en garde. Le ministre de la Santé annonce une augmentation considérable des cas de Covid d'ici 15 jours, des cas graves de Covid d'ici 15 jours. 8500 nouveaux cas ont été détectés ces dernières 24 heures, ainsi que 53 nouveaux foyers. Interrogé chez nos confrères de BFM TV, Olivier Véran indique parallèlement que l'accès aux tests seront facilités d'ici la fin du mois, annonce alors que les prélèvements et les résultats sont très longs dans les laboratoires. 1 million de tests sont désormais réalisés par semaine selon les chiffres du ministère. Confusion autour du port du masque généralisé à Strasbourg et Lyon. La justice a retoqué les décisions préfectorales. L'État a fait appel. Une audience se tiendra demain en fin de matinée. La mort de 2 soldats français de la force militaire Barkhane au Mali. Un troisième est blessé. Annonce de l'Élysée ce soir dans un communiqué. Leur blindé a été détruit par un engin explosif improvisé lors d'une opération dans la région de Tessalit. Les 2 militaires appartenaient au 1er régiment de hussards parachutistes de Tarbes. On a appris aujourd'hui la mort d'Antoine Rufnak à 81 ans. Ce Chiracien avait été maire du Havre de 1995 à 2010, date à laquelle il avait démissionné pour laisser la place à Édouard Philippe. Emmanuel Macron a salué aujourd'hui un homme de conviction dans un tweet. Jean-Louis Debré a rendu hommage à une grande figure de la droite.
C'est une grande tristesse parce que pour ceux et celles qui ont suivi Jacques Chirac, il a toujours été un modèle. Le moteur de sa vie politique, c'est la liberté. Il a construit sa vie politique en fonction de ses choix propres et non des influences des uns et des autres. À plusieurs reprises, il a refusé des postes ministériels. Peut-être qu'il n'a pas eu le destin politique auquel il pouvait aspirer, mais il est resté droit dans ses bottes, libre, libre de demeurer attaché à sa ville dont il fut le maire de 1995 à 2010, un maire apprécié et respecté par tous, un bâtisseur comme on n'en fait plus.
Jean-Louis Debré avec Marion Gauthier pour Europe 1. Et au moment où ils perdent un des leurs, les Républicains faisaient leur entrée à Port-Marly dans les Yvelines. Avec en invité vedette aujourd'hui François Baroin. Il faudra attendre pour savoir si le président de l'Association des maires de France ambitionne de se présenter à la présidentielle de 2022. Interrogé à ce propos, il a indiqué qu'il ne répondrait pas et qu'il se prononcerait au moment voulu. Le football, c'était ce soir le retour de l'équipe de France sur le terrain. Première journée de la Ligue des Nations. Les Bleus s'imposent grâce à la Suède, 1-0, grâce à un but de Mbappé. Pas un grand match pour Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France.
On ne peut pas dire qu'on a fait un match brillant, sérieux, appliqué, avec beaucoup d'implication de la part des joueurs. Ça demandera évidemment de répéter, contexte différent aussi, adversaire différent, mais voilà, dans mon analyse avec le staff. Bien évidemment, je tiens compte de surtout la condition athlétique qui aujourd'hui permet pas à tous, et ça se voit sur le terrain, même s'ils ont tous fait les efforts d'être au maximum.
Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, au micro européen de Cyril de la Morinerie. Le Tour de France, le Français Nance Peters remporte la 8e étape à Loudainville dans les Pyrénées. C'est le Britannique Adam Yates qui conserve le maillot jaune. Demain, la 9e étape mènera le peloton de Pau à La Rance dans les Pyrénées-Atlantiques sur 153 km. La météo et quel temps pour demain, Valérie Darmon?
Eh bien, un temps sec, de plus en plus beau, mais plus frais, avec en matinée quelques averses éparses sur les régions bordant la Manche et la frontière belge. Mais les éclaircies vont s'élargir dans l'intérieur des terres au fil de la journée. Le ciel est également bien chargé au pied des Pyrénées et sur les Alpes. Partout ailleurs, c'est sec et bien ensoleillé. Mistral et Tramontane se lèvent en matinée sur la Méditerranée et les rafales vont atteindre 70 km/h l'après-midi. Les minimales vont osciller entre 7 et 12 sur la moitié nord, 11 à 16 au sud, jusqu'à 20 près de la Grande Bleue, les maximales entre 18 et 22 au nord, 22 et 25 des Alpes au sud-ouest, 25 à 32 sur le Languedoc, PACA et la Corse.
Merci Valérie Darmon, vous êtes sur Europe 1. Il est minuit, passé de 7 minutes et c'est la suite de la Libre Antenne avec Sabine Marin.
Europe 1, 23h, 1h, la Libre Antenne, Sabine Marin.
Alors après le Bas-Rhin, nous voilà retournés à Brest avec un petit coucou de Véronique. Bonsoir à vous Véronique. La balle est donc à l'ouest maintenant. Et donc, bonsoir à vous Hélène, ça y est, on vous a récupéré. Ah non, pas deux fois, allô Hélène?
Oui.
Ah, vous m'avez fait peur, j'ai cru qu'on vous avait reperdu.
Non.
Donc vous vouliez aussi répondre à ma question, où êtes-vous? Je disais, la balle est à l'ouest, puisqu'on a le dernier coucou vient de Véronique qui est à Brest.
Non, moi c'est plutôt l'Est. C'est la Moselle, le département de Moselle.
Ça s'entend un petit peu dans votre voix.
Oui, il paraît que j'ai l'accent. Oui, donc...
Je vous écoute, Hélène.
Vous voulez que... Enfin, je sais pas, moi, je voulais parler de mon village parce que finalement, la Lorraine, on la connaît surtout par l'industrie, le côté industriel. Mais moi, ce que j'aime, c'est la Lorraine rurale et j'ai grandi dans un village qui s'appelle Porcelette.
Oui.
Alors, bon, les gens sourient quand ils entendent le nom.
Comment s'appellent les habitants de ce village?
Les Porcelettois.
Les Porcelettois, d'accord.
Oui, alors bien sûr, la plupart des gens pensent maintenant qu'il n'y a aucun rapport avec les cochons, mais en fait, parce que depuis 1611, depuis la naissance du village, le village avait été fondé par un prélat qui s'appelait Jean des Porcelets de Mayanne. Ce nom de porcelet et porcelette, en fait, ça vient d'une légende et ça m'a... Si vous voulez, je la raconte vite fait.
Allez-y, écoutez, ça nous fait du bien aussi d'avoir une petite carte postale comme ça de nos auditeurs.
Alors voilà, bon, l'abbé avait donc fondé... C'est un évêque à Toul, de Toul qui avait fondé le village et il avait, d'après la légende, pour aïeul, une dame que j'ai appelée Dame Mathéline, mais c'était pas Mathéline, je pense pas que c'était son vrai prénom. Mais elle avait fait parler d'elle en 1478, au moment où on avait construit à Mayanne un moulin à blé. Et elle se promenait, elle était un peu hautaine. Et à côté d'elle, il y avait une mendiante par terre avec plein de marmots miséreux. Et elle avait dit à cette mendiante, quand on est aussi pauvre, on ne fait pas autant d'enfants. Mais la pauvresse, la mendiante, s'est transformée en fée. Mmh. Et elle lui a dit, Madame, un jour vous aurez autant d'enfants que cette truie amibas, de porcelet. Et effectivement, la dame qui n'avait pas d'enfants à ce moment-là, mais a eu par la suite 9 enfants, comme la truie qui allaitait ses 9 porcelets. Et ces 9 enfants, sur ces 9 enfants, il y en a 2 qui se sont établis en Lorraine au 15e siècle. Mmh. Donc un de ces enfants-là, ce prêt-là, a fondé le village de Porcelette, qui se trouve au milieu d'une forêt. En fait, c'est un village qui a été créé de manière un peu artificielle. C'était un dessartage, quoi, d'une partie de la forêt. C'est la principale richesse. C'était la principale richesse à cette époque-là, ici. Mmh. Bon, après, les gens étaient mineurs, etc. D'ailleurs, il faut dire en passant que pour connaître un petit peu les gens d'ici, nous, à l'époque, on parlait encore un patois germanique. On était toujours, comme on est frontalier, on était toujours un peu tiraillé entre l'Allemagne et la France, et selon l'histoire, quoi.
Ouais. Conte légende et histoire de nos régions, merci Hélène d'être venue partager ça avec nous ce soir. Et donc maintenant la balle est à l'est, j'aimerais bien qu'on ait des gens du sud et du nord qui se manifestent un peu. Est-ce que vous nous écoutez dans le sud et dans le nord? Allez, à tout de suite.
Sabine Marin est à votre écoute sur Europe 1.
Et c'est Marlène que j'accueille maintenant. Bonsoir à vous Marlène.
Bonsoir. Je fais une petite aparté avant de dire pourquoi j'appelle, mais parce que c'est amusant, là, cette Hélène qui appelait de l'Est. J'ai remarqué que vous étiez aussi mauvaise que moi pour prononcer les noms alsaciens. Et moi qui n'ai jamais étudié l'allemand, je suis comme vous, mais ça fait rien, les Alsaciens sont vachement gentils et ils nous en veulent pas si on ne sait pas prononcer le nom de leur commune. Alors que
ils sont indulgents. Pourquoi vous pensez que ça n'est pas Dürningen?
Bah, j'en sais rien, moi je ne sais pas parce que j'ai jamais étudié l'allemand, mais en tout cas quand ma fille faisait des études à Strasbourg, j'allais souvent là-bas et les Alsaciens étaient particulièrement gentils pour se montrer sur le plan où c'est cette rue-là sans savoir le lire, c'est dingue. Mmh. Bon, alors sinon, donc ils sont très gentils, ils sont adorables. Et donc je voulais vous dire, moi, c'était à propos des aveugles, parce que moi ce handicap-là me touche particulièrement, non pas parce que je suis non-voyante moi-même, d'abord j'aime pas ce mot-là, non-voyant, c'est bête. Un aveugle est aveugle, bon. Mais parce que jadis, j'avais eu un collègue aveugle qui n'était pas aveugle de naissance, mais qu'il était devenu à l'armée en recevant je ne sais quoi dans les yeux. Et il était devenu prof de braille. Et j'avais compris avec lui la difficulté que c'est de se promener dans la rue. Et par exemple, lui, il me disait, c'est pas moi qui m'accrochais à lui, c'est lui qui me touchait pour que je le guide. Et après, je me disais, mais c'est tellement facile. Je trouve que les aveugles, c'est les plus faciles à aider parmi les handicapés divers et variés. Parce que je me dis, bon, ce qu'un chien sait faire, pourquoi on ne saurait pas, nous moi, j'en rencontre tous les jours des aveugles, parce qu'il y a un centre pour aveugles pas loin de chez moi, ainsi que 2 EHPAD, d'ailleurs. Mais une fois, j'avais déjà demandé par SMS à Europe 1 que les aveugles nous expliquent exactement ce qu'ils attendent de nous dans la bienveillance. Parce que, bon, moi, je l'ai appris avec ce garçon. Par exemple, je lui disais, tiens, fais un écart à gauche, il y a un poteau. Ou alors, ah, zut, il y a une grande flaque d'eau, là. Et tout ça. Et c'est simple. Et des trucs tout bêtes aussi, comme dans l'autobus. Par exemple, avec le tramway, il n'y a pas de problème, mais on est toujours à niveau par rapport au quai. Mmh. Avec le bus, c'est pas du tout le cas. Quelquefois, le bus est garé très loin du trottoir et ça fait une marche. Donc, si simplement je dis à la personne aveugle,
attention à la marche,
en descendant, il y a un grand creux, une grande marche, ou alors, pas de chance, la porte de l'autobus est pile poil en face d'un arbre. Ou alors, des crétins qui ont garé leur vélo ou leur deux roues moteur juste à l'endroit de l'arrêt de bus. Vous voyez, donc j'aimerais bien qu'ils nous disent, les vrais aveugles, ceux qui en quoi on peut les aider de façon spontanée, gentille et quotidienne. Pas tout à l'heure, là j'étais en ligne avec votre collaborateur, ce qui fait que j'ai pas bien entendu ce qu'elle racontait, la musicienne là. Mais j'en ai entendu une partie et je me disais, mais voilà, c'est ça qu'il faut que les aveugles nous disent. Qu'est-ce que vous attendez de nous? Des choses simples. Une fois, par exemple, j'en ai rencontré 2, enfin plutôt c'est eux qui m'ont rencontré. on leur avait mal indiqué, on leur avait indiqué un magasin qui était, paraît-il, en leur disant qu'il y avait de la nourriture là-dedans, il n'y avait que des vêtements, des cosmétiques et de l'hygiène. Non, le magasin de nourriture, c'est plus loin, je vous emmène. Mais ils étaient deux, alors là j'étais, comment je vais faire pour en guider deux? Et heureusement, eux, ils savent, ils sont mis l'un derrière l'autre. Il y en avait un qui touchait, celui qui était derrière touchait l'épaule de celui qui était devant. Et moi, j'avais qu'à m'occuper que de celui qui était devant. J'ai pas besoin de m'occuper de celui qui était derrière. Mais là, c'est pareil, c'est ce que vous disiez, c'est eux qui m'ont appris.
Oui, c'est ça. On en revient à l'essentiel qui s'appelle le dialogue. Dire les choses, oser parler, se parler, se dire les choses. Sans se compliquer la vie, sans honte, sans peur, sans quoi que ce soit, juste se parler, quoi.
Ben oui, et quand je les ai emmenés dans le magasin, donc, qui, lui, avait de la nourriture, le premier imbécile venu me dit « Qu'est-ce que vous voulez ?» Je lui dis « Moi, je veux rien. Je vous amène deux personnes qui ont besoin de vous. » Et parce qu'après, qu'il les amène dans les rayons pour savoir, je ne sais pas moi, quel fromage il voulait ou quelle charcuterie ou je ne sais quoi. Et c'est pourtant pas dur. Vous avez raison. Parler gentiment, ça peut se faire, parce que souvent on dit que les Parisiens, j'appelle de Paris d'ailleurs, que les Parisiens sont, je sais pas quoi, font toujours la gueule, sont égoïstes et tout ça. C'est pas tout à fait vrai. On peut effectivement, comme vous dites, parler simplement.
Et puis ailleurs, il n'y a pas que des saints non plus. Hein.
Non, bien sûr. Mais moi, je voudrais que des vrais aveugles qui sont auditeurs de France 2, d'Europe 1.
On leur pardonne aussi, mais enfin, quand même, c'est mieux. Europe 1, c'est mieux.
Oui, il n'y a pas que des abrutis à Europe 1, non. Moi, j'aime bien Europe 1, surtout le soir. La journée, il n'y a pas plus. Mais bon, bref, toujours est-il que des vrais aveugles nous expliquent. Parce qu'une fois, j'avais déjà demandé par SMS, et notamment, il s'agissait de quelqu'un d'aveugle qui allait se promener à La Rochelle, où il n'était jamais allé. Et je me disais, mais c'est quand même difficile, parce que La Rochelle, il y a plein de rues pavées, il y a plein d'arcades, donc des poteaux. Et lui, il avait l'air de trouver, cet homme aveugle, que c'était pas difficile du tout d'aller se débrouiller, même s'il n'y avait jamais mis les pieds avant. Bon, alors, très bien, tant mieux pour lui. Mais franchement, que les aveugles nous disent, c'est simple. Les gens sur chaise à roulettes, par exemple, c'est facile aussi. S'ils veulent un truc qui est haut dans les rayons, pof, on attrape l'article qui est en haut, ou trop haut, trop bas, c'est jamais à la bonne hauteur, c'est marrant. Et donc c'est facile aussi de les aider pour ça. Mais alors les aveugles, je trouve franchement, à côté de chez moi, il y a eu des travaux. Et il y a un trottoir qui est complètement défoncé, qui n'a jamais été réparé. Donc ça fait des creux. Et alors déjà, moi j'ai toujours peur de m'y casser la figure. Mais en plus, quand il pleut, ces creux deviennent des petites mares. Donc c'est facile de dire à un aveugle, marchez sur votre droite ou venez plus à gauche. Devant vous, il y a une flaque, des trucs comme ça. Mais j'aimerais bien que ce soit eux qui nous le disent.
À propos de course, on a eu un soir quelqu'un qui avait suggéré quelque chose de vraiment intéressant pour les aveugles dans les magasins. C'était de faire des casques d'accompagnement audio comme il y a dans les musées, vous voyez.
Ah bah oui,
en disant,
voilà,
vous êtes dans tel rayon, là vous avez les pâtes sans gluten, là vous avez le riz ici, à droite vous avez le sucre. Et d'accompagner comme ça les gens qui ont des soucis, à quel que soit leur niveau de vision, avec une sorte de guide audio, comme une visite guidée.
Oui, mais en plus de ça,
je trouve que l'idée est bonne.
Je ne sais pas si beaucoup d'aveugles dominent le braille, mais il y a des ascenseurs qui ont les boutons en braille. En Espagne, il y a beaucoup plus d'aide aux aveugles qu'en France. Le braille, c'est depuis très longtemps. Les signalisations sonores pour indiquer les arrêts de bus ou des choses comme ça. Bon, à Paris, il y a eu quand même un progrès. Là, cette espèce de sonnerie là, au niveau des feux rouges. Où
oui,
on dit,
tout à fait.
Les enfants adorent ça, d'ailleurs. Mais où on vous dit si vous pouvez traverser ou non, ça c'est déjà un progrès, mais sinon pour tout ce que je vous dis, des creux, des bosses, des poteaux, les magasins qui sortent un tas de trucs devant leur porte, je sais même pas s'ils ont le droit.
Mais vous faites bien de nous rappeler qu'effectivement, à nous aussi de faire tout simplement, parce qu'on n'y pense pas.
Ben oui, mais justement, c'est pour ça que je vous dis que la libre antenne, comme il y a souvent, enfin pas souvent, mais je veux dire, il y a quand même bon nombre de non-voyants qui appellent, j'aimerais bien qu'ils nous disent ce qu'ils attendent de nous, parce que je vous dis, moi par exemple, l'autobus, quand il est loin du trottoir, c'est quand même facile de dire méfiez-vous, la marche est très haute, ou le bus est loin, surtout quand c'est des bus doubles. Donc voilà, des choses comme ça, toutes simples. Parce qu'une fois, je me rappelle, il y avait une jeune aveugle à la libre antenne qui avait dit qu'elle n'avait pas besoin de s'asseoir, elle avait 25 ans, qu'elle n'avait pas besoin d'être assise. Et ça me faisait rire parce que c'est vrai que moi j'aime beaucoup être assise, j'ai mal partout, j'ai mal dans le dos, machin, mais elle disait ça à elle, mais par contre si on lui dit il y a une grande marche, un grand creux entre à la sortie du bus, ça sera plus utile pour elle que de lui laisser un siège, vous voyez.
C'est vrai. Et une fois de plus, il faut pas hésiter à en parler le plus souvent possible, parce que ce sont des choses toutes simples auxquelles on ne pense pas.
Ben justement.
Et je pense que plus on en parle juste dans ces émissions, dans nos émissions, plus on peut ouvrir l'esprit, les esprits, et une fois de plus être solidaire et faire des. C'est pas grand chose à chaque fois. C'est un petit geste, un petit mot, mais mis bout à bout, ça peut changer la vie de plein de monde, plein de gens.
Eh ben évidemment, parce que c'est vraiment pas. C'est comme vous dites, des petits gestes, des petits riens du tout. Qui puissent aider, parce que c'est vrai que c'est quand même idiot qu'un aveugle marche tranquillement tout droit et qu'il soit sur une flaque d'eau, qu'évidemment il n'avait pas vue. Une grande flaque d'eau, parce qu'à Paris, les trottoirs sont souvent inégaux. Plein de trous, de bosses.
Oui, c'est vrai que quand on n'a pas ce problème-là, on ne pense même pas à prévenir, quoi. C'est vrai.
Ben moi, je me dis, les chiens savent le faire, alors on est quand même plus malin qu'un chien, normalement. Même si vous adorez les chiens. Et puis tout à l'heure, vous parliez encore d'un labrador. C'est vrai que moi aussi, j'aime bien les labradors. Moi, de toute façon, j'aime que les grands chiens. Les petits, je les aime pas. M'agace. Mais donc, si on peut éduquer un chien pour qu'il sache guider un aveugle, je vois pas pourquoi tout un chacun ne saurait pas, en voyant une carte blanche, préciser s'il y a un truc qui gêne à droite, à gauche.
À nous, Marlène, d'éduquer mieux nos enfants dans ce domaine-là aussi, tout simplement.
Oh ben oui, ben une fois j'étais avec mon petit-fils dehors et justement comme il y a des EHPAD le week-end, souvent les familles viennent rendre visite à la personne qui est dans l'EHPAD, résident. Et une fois il y avait une femme jeune qui poussait une vieille sur un truc qui ressemblait plus à un brancard qu'à une chaise à roulettes. Et mon petit-fils dit en parlant de la vieille dame, elle est morte. Alors la pauvre dame, elle devait pas être sourde. Il se dit non mon chéri, elle n'est pas morte, mais c'est vrai qu'elle est très vieille et qu'elle va pas bien, mais. Mais après, je lui dis.
Elle respire encore, je te rassure.
Oui, et puis je lui dis que jamais, au grand jamais, on promenait quelqu'un de mort dans la rue. Et en plus, on le couvre.
Oui, éventuellement, mais... oui. Parce que j'ai l'image en même temps que vous me racontez ça.
Mais oui, parce que c'est vrai que la dame, elle avait les yeux mi-clos, la bouche légèrement ouverte, et elle n'était pas le joue creuse. Mais le gamin qui dit ça, mais moi, une fois, j'ai eu le coup, parce que je suis plutôt ronde, il y a un gamin, une fois, qui m'a dit au jardin. Il dit à la personne qui était avec lui, regarde, la dame, elle a un bébé dans le ventre. Alors je lui dis, oh ben non, tu sais, moi je suis une mamie, c'est fini ça. Et alors la personne adulte était hyper contrariée, avait l'impression qu'il avait commis une grosse faute, qu'il avait fait une grosse gaffe. Et je lui dis, non, moi c'est fini, moi je suis ronde, mais j'ai pas de bébé dans le ventre, c'est terminé, je suis une mamie. Donc le gosse, il était très content, puis voilà.
Oui, c'est tellement plus simple avec les enfants, finalement.
Oh oui. Parce qu'ils n'ont pas ce regard, les aveugles coup de peau pour ça, ils ne voient pas le regard qu'on peut porter sur eux, mais ils doivent le sentir.
Dites-moi Marlène, vous avez été très injuste avec moi.
Pourquoi ?
Parce que j'ai très bien prononcé Dürningen, il y a Zabeth qui me dit que c'était très bien prononcé comme ça.
Ah bon ?
Dürningen.
Oh, ben mais voilà. À tout le temps, on l'atteint dans le texte.
Je rigole.
Mais j'imagine, parce que même une fois au restaurant à Strasbourg, je ne savais même pas dire, il y avait un truc, c'était des boulettes. Je ne savais pas le lire. Je disais, et ça, c'est quoi au juste en montrant du doigt. Non, mais c'est hallucinant. J'avais l'impression d'être analphabète. Mais je vous dis, ils sont sympas, les gens. Ils expliquent gentiment, ils sont mignons.
Et c'est maintenant Paige que j'accueille sur notre antenne. Bonsoir, Paige.
Bonsoir, Isabelle. Je vous remercie pour le format de cette émission. Je vous écoute depuis mon arrivée en France. Ça fait déjà 3 ans. Et aussi Olivier, je ne me rappelle plus le nom.
De la Croix.
Oui, merci.
De quel pays nous arrivez-vous, Paige?
Je suis originaire d'Haïti.
Haïti, d'accord.
Oui, mais je n'ai pas vraiment grandi là-bas.
Oui.
Oui. En fait, je vous appelle parce que j'ai rencontré, pour commencer, je suis une femme transgenre.
Vous êtes, pardon?
Une femme transgenre.
Transgenre, d'accord.
Oui. Donc, et l'année dernière, j'ai rencontré un monsieur. Enfin, il a le même âge que moi. J'avais 24 ans, maintenant j'ai 25 ans. Donc, et on a commencé à parler, mais je ne savais pas encore que j'étais transgenre. Donc, moi, je ne savais pas comment je lui dis. Donc, j'ai coupé tout contact avec lui parce que j'avais pas assez de... Comme il était tellement à fond sur moi, puis moi... Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, parce que c'était la première fois que quelqu'un était comme ça avec moi.
Pardon, est-ce que je peux vous demander juste de reculer un tout petit peu du combiné? Parce que c'est un petit peu fort et on ne comprend pas forcément bien ce que vous dites.
Ok.
Juste voilà, le son est un peu fort pour moi.
Ok. Allô, c'est bon là?
Oui, merci beaucoup, c'est plus agréable à comprendre.
Ok.
J'aimerais, vous allez me raconter un petit peu aussi, j'espère, votre histoire avant d'en arriver peut-être à cette relation-là.
Oui.
Et comment vous en êtes arrivé à devenir transgenre? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre histoire de vie?
Alors, j'ai toujours, depuis mon adolescence, j'ai toujours senti que j'étais pas bien dans mon corps. À ce moment-là, je ne savais pas que je pouvais faire ma transition parce que je me dis que, OK, je suis peut-être différent, mais je ne savais pas quel mot mettre sur mon problème.
Donc, vous êtes né garçon?
Oui, exactement.
C'est ça. Mais vous ne vous sentiez pas du tout masculin?
Non, pas du tout.
Okay.
Voilà. Même avec mes amis de l'école, c'était vraiment compliqué pour moi. J'étais dans une école congréganiste, donc c'est une école pour les garçons. Donc j'avais des difficultés avec mes camarades de classe parce que j'étais très, très efféminée. Et j'avais aussi ma voix aussi qui était toujours comme ça. Donc, et
comment voilà. Ça se passait avec vos parents?
Alors, j'ai eu plutôt ma maman, c'était très triste, c'était bien passé avec elle parce qu'elle est là, elle est très ouverte. Elle ne savait pas aussi que j'étais une femme transgenre à ce moment, mais elle disait que j'étais gay. Donc, elle n'avait aucun problème avec ça. Mais mon papa, c'était beaucoup plus compliqué parce qu'il est religieux, donc c'était pas facile au début, mais après il a en fait, on est toujours pas proches, mais il était beaucoup plus gentil comme avant.
Pour lui, c'était quoi? C'était un péché?
Oui, pour lui, c'était un péché et il voulait surtout pas que les autres soient comme moi parce que pour lui, il pensait que les autres allaient devenir comme des plus petits, allaient devenir comme moi. Donc, il voulait que je quitte la maison familiale, tout ça. C'est assez compliqué.
Oui.
Et donc, voilà. Et je continue avec l'histoire.
Allez-y.
OK. Donc, j'ai rencontré ce monsieur l'année dernière et on a commencé à parler, mais parce que physiquement, je suis très, très, comment dire, on ne peut pas voir que je suis une femme transgenre si je le dis pas.
Vous êtes très, très féminine.
Exactement. Donc, même au niveau de ma voix, tout ça, il n'y a rien qui est... Et donc, le monsieur, il ne savait pas au début et... J'ai mis un an avant de lui dire, il n'y a pas trop longtemps, parce que j'ai arrêté de lui parler pendant une année, parce que je ne savais pas comment lui dire. J'avais peur parce qu'il était tellement, il me parlait tellement de choses qu'il voulait avec moi.
Pardon, Paige, que je comprenne bien, pendant ces un an, vous avez eu des relations intimes?
Non. Au début, on se voyait au resto, il m'invitait tout le temps.
Pendant un an?
Oui, non, pas pendant un an. J'ai arrêté de lui parler pendant un an.
Ah, d'accord.
Mais pendant quelques mois, on se voyait au resto. Puis à un moment donné, si c'était trop pour moi, j'ai coupé les ponts avec lui. Je l'ai bloqué de partout.
D'accord.
Donc, il y a quelques semaines de cela, et ce même monsieur, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais c'était moi qui l'avais ajouté sur Snapchat, je ne vais pas dire Snapchat. Et donc, il m'a accepté, il m'a aussi, je ne sais pas quand je l'ai ajouté, mais de toute façon, c'est moi qui l'ai ajouté quand même. Donc, on a commencé à parler, et il ne savait pas que c'était moi, parce qu'entre temps, j'avais refait un autre compte. Et puis, il m'a demandé c'était qui. J'ai donné mon nom. Il m'a dit oui, c'est non, mais c'est quelque chose. Et quand j'ai envoyé ma photo, il a bien vu que c'était moi. Il m'a dit, ah oui, t'as arrêté de me parler, pourquoi? Et puis moi, à ce moment-là, je lui ai envoyé mon numéro, mon nouveau numéro. Et donc, on s'est repris contact, on a commencé à discuter. J'ai dit que, mais voilà pourquoi j'ai arrêté de te parler, parce que je suis une femme transgenre. je ne savais pas comment te dire que j'étais étranger parce que tu étais beaucoup trop attaché avec moi. Et moi, je voulais mettre une ferme attachée parce que habituellement, souvent, une remarque que j'ai fait quand on dit qu'on est
Attention au combiné parce que c'est vraiment extrêmement compliqué de bien vous comprendre.
Ok.
Je tends l'oreille, mais je pense à ceux qui sont chez eux ou en voiture. C'est vraiment pas facile de comprendre tout ce que vous nous racontez. Et j'aimerais bien ne pas perdre le fil de votre histoire. Donc, merci de faire un petit peu attention à la manière dont vous vous positionnez par rapport au combiné.
Hein? Ok.
Tout à l'heure, c'était clair. Et puis là, au fil de vos paroles, je vous perds à nouveau.
Ok. Attendez, je suis bon là maintenant?
Oui, allez-y.
Ok.
Merci.
Et donc, il a commencé à me parler. Donc, je lui ai dit que j'étais une femme transgenre. Et puis, à mon grand étonnement, il a dit qu'il n'avait aucun problème avec ça, mais il ne s'en doutait pas parce qu'il n'y avait aucun signe qui laissait croire que j'étais.
Il a été surpris quand même, mais ça ne lui a pas posé de problème, quoi.
Non, ça ne lui a pas posé aucun problème.
D'accord.
Mais lui, pendant toute l'année que j'ai arrêté de comme si je l'ai bloqué de partout, et lui, il a pensé vraiment à moi. Et donc, d'après ce qu'il m'a dit, il m'a dit qu'il veut vraiment avoir une relation sérieuse avec moi. Moi, depuis, je me pose tellement de questions. Comme j'ai pas beaucoup d'amis en France, mes amis sont au Canada, ou je suis en Haïti. Et je me demande, est-ce qu'il vient d'une famille...
Paige, je suis absolument désolée, c'est inaudible. Moi, je perds le fil. Ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là. On essaie de vous rappeler demain soir. Vous ne raccrochez pas. Je vais vous repasser le standard. On va essayer de trouver un moyen de vous rappeler demain soir pour qu'on puisse entendre votre histoire. Parce que là, vraiment, c'est trop compliqué. On ne comprend rien. Le son est trop mauvais. Donc, ne raccrochez pas, s'il vous plaît. Je vous passe le standard. Et on va voir s'il y a un moyen de vous recontacter demain soir, si vous voulez bien, pour qu'on puisse vraiment s'entendre. D'accord ?
D'accord. Merci beaucoup.
Merci à vous. Je suis désolée, mais c'est la seule solution.
OK.
Merci, Paige. À demain.
À demain.
Sabine Marin vous écoute sur Europe 1.
Alors avant d'accueillir Abdou, juste un petit message de la part de Monique qui est à Châteauroux. Donc bonjour à vous Monique, bonsoir. Et Marie qui est à Aix-les-Bains. Coucou Marie, je vous embrasse. Bonsoir Abdou.
Bonsoir.
Soyez bienvenue.
Merci de m'accueillir.
Alors qu'est-ce qui vous amène ce soir?
Ben voilà, déjà... Je ne sais pas par où commencer déjà. Mais c'est juste que hier ou avant-hier, je ne sais pas, hier soir, je crois, j'ai écouté donc, dans l'émission, il y avait quelqu'un qui avait perdu son épouse aussi.
C'était Dominique, oui.
Voilà, c'est ça.
Oui.
Donc ça m'a vraiment touché, parce que c'est la même histoire aussi.
Ah.
Voilà.
Alors, elle est partie quand, votre épouse?
Exactement, le 22 décembre 2019. Ça fait pas longtemps, quoi. La fin de l'année 2019.
Mmh. Oui.
Voilà.
Qu'est-ce qui lui est arrivé?
Ben, c'était une tumeur. C'était une tumeur assez rare, quand même.
Quel âge avait-elle?
49 ans.
Oui, très jeune.
Oui, très jeune. C'était un ange personnifié.
Comment elle s'appelait?
Elle s'appelait Fatiha.
Fatia.
Voilà. D'accord. Voilà, Fatia. Exact.
Et entre le moment où la maladie est arrivée et son décès, il s'est passé beaucoup de temps ou pas?
Il s'est passé 2 ans.
2 ans, donc 2 ans qui ont dû être remplis.
Elle est venue soigner en France le 21 décembre, le 21 décembre 2017. Elle est décédée le 22 décembre 2019. Mmh. Exact. Il y a 2 ans, je sais.
2 ans d'un combat qui a dû être douloureux pour vous aussi.
Oui, c'est paradoxalement, c'est qu'elle s'était, elle se sentait de mieux en mieux parce qu'elle était bien prise en charge ici en France. Voilà. Mais comme la maladie était vraiment, elle était foudroyante et puis c'est une tumeur très rare. Donc on savait pas à quel moment ça allait. Aller l'achever, quoi. Donc, mais quand même, on s'est accroché à l'espoir qu'elle guérisse.
Est-ce que les médecins étaient optimistes? Est-ce qu'il y avait une option de guérison?
Non, les médecins lui ont... Au début, tout à fait au début, quand elle a atterri ici en France, les médecins lui ont dit « Madame, vous retournez en Algérie, vous n'en avez pas pour longtemps. » C'est ça qui l'avait déjà foudroyé au début. Et moi, j'étais en Algérie. Elle était venue toute seule. J'avais pas mon visa, donc elle est venue pour... toute seule. Bon. Heureusement qu'il y avait de la famille. Donc, c'est ressaisi quand même. Elle a commencé ses soins. Le protocole donnait de bons résultats. Enfin, la maladie, du moins, ne se propageait pas, quoi. Il n'y avait pas de métastase.
Elle avait stoppé l'évolution. Voilà. Ouais.
Elle avait stoppé l'évolution, voilà. Elle, c'était vraiment... Elle se portait bien. Elle faisait sa chimio. Le médecin lui a dit qu'elle allait vivre avec sa chimio parce qu'il n'y avait pas d'opération chirurgicale à envisager. Mm-hmm. Ce n'était pas possible. Parce que c'est une tumeur à cellules indépendantes.
D'accord.
C'est une tumeur qu'on appelle Krukenberg. Elle est quand même rare. Elle touche, apparemment, elle touche 2% de femmes.
Ok.
Vous voyez, je suis devenu médecin malgré moi.
Souvent, quand on accompagne quelqu'un ouais. comme ça, on apprend beaucoup de choses. Ouais. Hein. On devient presque spécialiste.
Oui. Il y a quand même des choses que je n'arrive pas à oublier, surtout le moment où... parce que je suis venu ici avec mon fils, on est passé avec elle un bon moment. On est venu en vacances, quoi. On est resté 2 mois avec elle. C'était bien, on s'est baladé, ça nous a permis de visiter un peu certains endroits ici en France. C'était bien, on ne dirait pas qu'elle était malade, sincèrement. Et puis d'un seul coup, elle s'est sentie très mal. Et ils ne se sont pas rendus compte que la maladie s'est quand même propagée, quoi. Mm. Parce qu'elle est vraiment maligne, comme on dit. Déjà, pour la déceler, elle a fait l'opération en Algérie. Pour déceler la maladie, il a fallu qu'elle fasse 7 biopsies.
Oh là là, oui, c'est sournois comme maladie, alors.
Oui, c'est énorme. 7 biopsies. Et puis, au résultat de l'analyse pathologique, le médecin était affolé. Il a vu le résultat, il était affolé.
L'ampleur des dégâts, quoi.
Ah oui, il était affolé parce qu'il ne savait pas, quel protocole prodiguer déjà. J'ai compris ça. Alors, c'est sur place que, heureusement qu'on avait déjà pris nos dispositions, elle avait son visa, quoi. Donc, elle est venue en France, et sur place, elle a pris rendez-vous à l'hôpital, elle a vu le médecin, voilà, il lui a dit ce qu'il lui a dit. Mais en fin de compte, elle a commencé à se soigner. Mais le plus dur pour moi, c'était le jour où le médecin m'a demandé la permission de la mettre en soins palliatifs. C'était pas facile. Je lui ai dit, docteur, est-ce qu'il n'y a pas un tout petit espoir? Il m'a dit non, sinon elle va souffrir. Et elle est partie. Moi, j'étais en Algérie, elle était ici.
Vous n'étiez pas à côté d'elle quand c'est arrivé?
Non. Le médecin a fait le nécessaire. Il m'a envoyé un certificat médical, un papier, quoi. Comme quoi, il fallait que je vienne d'urgence. Et comme en Algérie, la bureaucratie, elle bat son plein, j'ai reçu le visa trop tard.
Est-ce qu'au moins vous avez pu vous parler par téléphone?
On se parlait chaque soir au téléphone.
Ouais.
Chaque soir, chaque jour. Pas chaque soir, chaque minute, chaque heure, chaque jour. À tout moment, quoi. À tout moment, on ne se quittait pas. On vivait dans une harmonie terrible. Je ne sais pas, moi, je ne pouvais pas imaginer qu'on pouvait aimer quelqu'un à ce point, déjà. Vous voyez, maintenant, le compte, c'est que tout est amer. Je ne trouve aucun goût, rien, mais alors rien. J'ai tout perdu. Alors qu'avant, moi, je suis... Pour vous faire savoir, je suis artiste. suis chanteur, musicien, je suis peintre, je suis dessinateur. Et j'écris à temps perdu. D'ailleurs, c'est la seule chose que je fais maintenant. Je suis en train d'écrire l'histoire de ma vie. Mmh. Voilà. Voilà. Ça me console un peu. Chaque nuit, j'écris un petit peu. Voilà.
C'est un exutoire. Combien de temps avez-vous été marié ?
29 ans, exactement.
Ah, c'est une belle et longue histoire aussi.
Ouais, 29 ans. Et notre vie était belle parce que on a construit notre vie de nos propres mains. La maison, tout. On a tout fait. D'ailleurs, maintenant, j'ai plus envie de retourner en Algérie. J'ai plus envie de revoir ma maison. Déjà avant de venir pour ces soins, j'ai dû vendre la majorité, sauf il reste la maison. J'ai vendu tous mes biens. On nous a fait un devis faramineux ici. 44 000 euros de soins, alors que je ne pouvais pas couvrir.
Oui.
Pour une année encore, pour une année. Ouais. Heureusement qu'après, elle a bénéficié de l'aide médicale. Voilà. On a commencé à respirer. Mais entre-temps, on a touché le fond, quoi. Voilà.
Et ça fait un an, c'est vrai que c'est encore frais, tout ça. Et ce grand vide qu'elle a laissé, petit à petit, vous allez aussi le remplir, ouais. Le remplir avec des choses plus douces, des beaux souvenirs, des pensées.
Oui, j'aurais voulu avoir un mauvais souvenir.
Pourquoi ?
Comme ça, je vais faire une raison de l'oublier.
Vous pensez que ça aurait été plus facile de faire son deuil ?
Je ne sais pas. Je ne sais
non,
pas.
Bien sûr que non.
Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas.
Non, ce qu'il y a, c'est que petit à petit, vous allez une par une effacer les pensées de tristesse et les remplacer par des pensées d'amour et de la lumière.
Mais j'espère que j'y arriverai. J'essaye en tout cas, j'essaye.
Ça fait partie du chemin du deuil jusqu'à se dire un jour aussi, qu'est-ce que j'aurais préféré ? Avoir le bonheur d'avoir partagé ma vie avec elle et d'être triste maintenant ou de ne l'avoir jamais rencontrée ?
Certainement, je ne regrette jamais de l'avoir rencontré. Au contraire,
c'était
à refaire.
Vous le referiez bien sûr tout de suite.
Oui.
Et c'est un peu comme si finalement vous alliez vivre pour elle aussi maintenant. Vivre deux fois plus.
Oui, il y a une chose à laquelle je m'accroche pour elle, je m'accroche à mes enfants. D'ailleurs, j'ai ramené mon fils cadet avec moi, j'ai deux garçons. Le grand, il est resté au bled. Et le petit, je l'ai ramené avec moi parce qu'il est très attaché à elle. Alors,
quand vous dites le petit, il a quel âge ?
Maintenant, il a 17 ans.
C'est un grand petit.
Voilà. Un grand petit, voilà. Voilà. Effectivement, c'est un grand petit. Mais il est trop sensible. Trop sensible. Alors, je perds mes mots, vous savez.
Mais je comprends, il y a beaucoup d'émotions, il y a tellement d'amour quand vous parlez d'elle, c'est beau en même temps de vous entendre.
Ah oui, je n'ai pas honte de le dire, je l'ai aimée de toutes mes forces. Je l'aime encore. Je n'arrive pas à aimer une autre d'ailleurs. Impossible. Je me dis que c'est impossible. Impossible.
Ça, vous verrez ce que la vie vous réserve, il ne faut jamais dire jamais, vous savez.
Là, pour le moment, je le dis. Ensuite, je ne sais pas. Peut-être la vie peut nous réserver des surprises. Je ne sais pas. Mais pour le moment, je doute fort. Chaque minute, chaque soir, chaque jour, chaque matin, à chaque chose que je fais, elle est avec moi. C'est terrible. C'est-à-dire, on dirait qu'elle est en moi déjà. Elle est en moi, à l'intérieur de moi-même.
Mais c'est un peu ça. Mais c'est exactement ça qui se passe quand on perd quelqu'un. Il continue à vivre dans notre cœur et dans nos pensées.
Oui.
Bien sûr.
Oui.
C'est un endroit où sa présence est toujours là.
Oui.
Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la suite ? Est-ce que vous pensez que l'âme poursuit son chemin quelque part ?
Vous savez, je vais vous faire un aveu. Je pense que ma foi s'est ébranlée depuis son décès. Parce que je me pose la question, je me dis pourquoi s'il y a vraiment une justice divine, c'est pas normal que des choses pareilles arrivent. C'est pas normal de briser une harmonie pareille. Voilà. Alors qu'avant, je ne pouvais, c'est du blasphème. Pour moi, c'était du blasphème. Mais maintenant, je le dis normalement. Je le dis, je dis au bon Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi? Et puis, quand j'écoute justement des gens parler dans votre émission, je me dis, ma foi, je ne suis pas seul, en fin de compte. Je ne suis pas seul, nous sommes unis dans la douleur.
Bien sûr.
Ouais. Il y a beaucoup de gens qui sont dans mon cas aussi.
Vous savez, sur cette terre, une personne meurt toutes les 6 secondes.
Oui.
Et oui.
Tout ça.
C'est le cycle de la vie, c'est comme ça. Donc non, vous n'êtes pas seul. Et bien sûr, on est tous passés par là, ou on y passera tous, forcément.
Oui.
Et chacun vit son deuil différemment, bien sûr, selon ses croyances et selon son expérience de vie.
Tout à fait. Tout à fait.
Mais ce que j'entends, c'est que finalement, votre talent artistique vous permet aussi d'avoir un échappatoire aujourd'hui. D'exprimer par l'écrit, ou peut-être un jour aussi par des peintures ou de la musique différente pour elle.
Oui. Avant son décès, d'ailleurs par moment, on faisait des appels vidéo, et moi, je prenais ma guitare, puis je lui chantais. Moi, en Algérie, elle en France, et moi, je lui chantais. D'Algérie, je lui chantais, je lui faisais des vidéos, on rigolait. Je lui faisais des chansons qu'on chantait ensemble, parce qu'on chantait ensemble aussi à la maison. Donc, je me mettais à chanter les chansons qu'elle aimait. Voilà. Et maintenant, je prends ma guitare et je suis bloqué. Je ne peux plus chanter. Je n'ai plus envie de chanter. Je m'efforce, j'essaye de... Mais ça n'arrive pas.
Ça reviendra, Abdou, ça reviendra.
J'espère.
C'est normal, au début, c'est tout le poids du chagrin, de la tristesse. Mais petit à petit, ça va s'effilocher.
Ouais.
Pour laisser place vraiment à l'amour, à un sourire, à des souvenirs.
Oui.
Qui seront moins lourds et de moins en moins lourds. C'est le chemin habituel du deuil et c'est complètement normal au départ d'avoir encore ce poids-là.
Oui.
Et encore, vous arrivez à écrire, je trouve que c'est déjà formidable.
Oui, écrire, je n'arrête pas. J'écris chaque soir, j'écris. Et puis, chaque soir, des fois c'est des poèmes, des fois je, parce que j'écris le roman de ma vie et parfois je suis inspiré pour faire un poème, là. Voilà. Et j'ai... Bon, maintenant, je suis désordonné. Hein. J'écris n'importe comment, n'importe dans le désordre et tout. Et puis je me mets à remettre tout ça dans l'ordre. Et je trouve mon chemin, quoi. Parce que, par exemple, le roman, là, l'histoire de ma vie, il y a des paragraphes que j'ai placés que j'ai créé en premier, mais pour les placer à la fin, par exemple. Oui. Ça dépend de l'inspiration.
Oui, voilà. C'est ça, vous sortez tout, voilà. Et après vous faites le tri, et vous remettez ça dans l'ordre qui vous convient.
Voilà.
Peu importe,
voilà,
ce qui est important, c'est que ça puisse sortir, parce que c'est aussi une thérapie. Et puis c'est aussi un bel hommage que vous lui rendez en faisant ça.
Ah, oui.
Et votre plus jeune fils, comment il va, lui, maintenant, un an après?
Ça va, il va bien, lui. Il va bien, je suis tout le temps avec lui. J'essaie du mieux que je peux. Enfin, je lui montre pas déjà que je suis moi-même triste. Je ne veux pas qu'il comprenne ça. Je ne veux pas qu'il me voie triste.
Vous croyez pas qu'il le sent?
Ah oui, il le sent, je sais.
Ben oui.
Je sais qu'il le sent, oui.
Mais c'est pas un crime d'être triste?
Oui, mais je ne voudrais pas que je l'influence, c'est ça, que j'ai une influence sur son état d'âme, quoi. Je voudrais qu'il soit heureux, lui. Voilà.
Est-ce qu'il en parle de sa maman?
Pas beaucoup, sauf quand je lui parle de ça. Lui, comme ça, il ne parle pas directement. Il évite. Il évite, oui.
En tout cas, j'entends que vous êtes un papa très attentif et très aimant.
Oh, j'adore mes enfants. Et j'adore aussi les enfants parce que je suis enseignant aussi. Voilà. Pour moi, les enfants, c'est sacré. C'est, C'est pour ça, d'ailleurs, je vous ai dit tout à l'heure, il y a une chose à laquelle je m'accroche, c'est mes enfants. Mmh. Mes enfants. Je m'accroche à mes enfants pour ma femme aussi. Hein. Je sais que de là où elle est, elle est en train de me demander de veiller sur eux, de faire tout ce qu'il faut. Bon, elle n'a pas besoin de me le dire, mais comme ça. Je me fais une raison de vivre, déjà. Voilà.
Et est-ce que vous êtes soutenu par la famille ? Est-ce qu'il y a ses parents à elle, peut-être, ou les vôtres ?
Oui. Mais je vais vous dire une chose. Croyez-moi que c'est moi qui soutiens ma famille. Mmh. Psychologiquement. Mmh. Hein, parce que moi, je suis de nature très sociable. Et puis, je me suis rarement lamenté sur quoi que ce soit. Je me lamente jamais. Au contraire, j'essaie de donner du courage aux gens. J'essaie de... Et tout ce que je vous raconte là, c'est la première fois que j'en parle. Hein. J'en parle pas aux autres. Quand je parle de ma femme avec les autres, ben je le fais le plus normalement du monde. Ben, on l'a vécu, le sort a voulu qu'on soit séparés. Ben voilà, c'est la vie.
Mais vous gardez tout à l'intérieur.
Je n'ai pas envie de faire du mal aux autres. À quoi ça sert ?
Ça s'appelle la pudeur. Ouais.
Voilà. Je ne sais pas si je m'exprime bien.
Vous vous exprimez très bien, vous, et surtout vous êtes lumineux et on sent que vous êtes un homme qui a un grand, grand cœur. Et je me permets, si vous le voulez bien, d'avoir une pensée pour Fatia.
Merci beaucoup, oui.
Et de lui rendre à travers vous et la Libre Antenne un hommage ce soir.
Moi ou vous ?
Moi, je me permets de lui rendre un hommage.
Ok. Bien sûr. Merci beaucoup.
D'accord, Abdou.
Ça me va droit au cœur.
Merci de nous avoir appelés et je suis de tout cœur avec vous.
Merci beaucoup. Merci.
Je vous embrasse.
Allez, au revoir. Merci.
La Libre Antenne se termine ce soir. Merci à tous d'avoir été là, d'un côté ou de l'autre du poste. Merci pour vos témoignages, pour votre présence. Merci pour vos nombreux SMS. C'était sympa d'avoir joué le jeu. Je vous retrouve demain soir à partir de 23h avec le même plaisir. Et je vous quitte avec la phrase du jour. Si tu veux connaître quelqu'un, n'écoute pas ce qu'il te dit, mais regarde ce qu'il te fait. Bonne nuit et à demain.